Bonjour. Dix ans. Nous voilà donc 10 ans que je me suis réfugiée dans ce pays qu'est la France. J'ai guetté, écouté, lu tout ce qui pouvait parler de mon pays. Souvent, j'ai été surprise et pas mal de fois déçue, car je me suis rendu compte que l'on n'intéressait pas tous les médias. Alors aujourd'hui, je voulais vous remercier de ne pas nous avoir oubliés. Il n'y a rien de pire que l'oubli. Je n'ai malheureusement pas eu le temps de prendre nos photos de famille lors de la fuite pour caresser le visage des miens, esquisser un sourire en voyant le leur. Aujourd'hui, on a appris à vivre avec une douleur permanente, une plaie ouverte. Mes aigreurs s'adoucissent lorsque j'entends l'intérêt dont vous avez fait preuve pour le pays des mille collines. Il devait y avoir 1 minute de silence aujourd'hui à midi ou midi et demi. Je n'ai ni entendu de sirène, ni vu de drapeau en berne comme il était dit. Et pourtant, pour d'autres peuples, on l'a fait. Dans ma langue natale, le Kinyarwanda, hier et demain se disent de la même façon. Alors nous n'avons plus qu'à vivre le présent, car hier comme demain, on ne représentera aucun intérêt à ce monde qui se dit composé d'êtres humains. Merci. Au revoir.
Oui, bonjour, c'est François Lyon, 10e anniversaire du génocide rwandais. 1 minute de silence et les drapeaux en berne. Les drapeaux en berne, pas trop en fait. À Lyon, bah, y a rien. Un beau drapeau bleu, blanc, rouge flotte sur la ville. Et voilà, il n'y a même pas ça, quoi. Salut.
Bonjour, Daniel Mermet. Tout le monde se pose la question de l'origine du génocide des Rwandais. C'est bizarre parce qu'on a tous les éléments. Et moi, je viens de revoir un livre de Michel Sidbon qui, en 98, analyse tout et a toutes les preuves de ce génocide, de l'origine, de qui est impliqué dedans. Et c'est étonnant que, enfin, de ne pas savoir. Salut bien.
Si le génocide des Tutsis a démarré en 59 au Rwanda, il y a un génocide en cours à l'heure actuelle au Burundi, c'est celui des Hutus par les Tutsis qui a aussi démarré à cette période-là. Il suffit de reprendre quelques dates importantes de l'histoire du Burundi pour se rendre compte que nous sommes juste dans une situation inverse. Voilà, salut.
Bonjour, ici Lise de Toulouse. Ce midi, il y avait un dying, place Wilson, en souvenir du génocide au Rwanda. Un daïn, c'est quand on s'allonge par terre et qu'on fait le silence pour rendre un hommage aux victimes. On était une cinquantaine de personnes. À quelques mètres de là, il y avait des milliers de personnes qui venaient accueillir la reine d'Angleterre, des fontaines de policiers en joli uniforme, des gardes de CRS pour la protéger, des fleurs par-ci, par-là. Tout avait été bien nettoyé. Tout ça dans la joie et la bonne humeur. Pas de commentaires.
Bonjour et merci à Daniel Mermet pour toutes ces émissions et notamment la phrase qu'il vient de dire aujourd'hui. Je voudrais lire très rapidement un petit extrait de Primo Levi. Le voilà. Il faut rappeler que ses fidèles et parmi eux les exécuteurs zélés d'ordre inhumain n'étaient pas des bourronnés, ce n'étaient pas sauf rare exception des monstres, c'étaient des hommes quelconques. Les monstres existent, mais ils sont trop peu nombreux pour être vraiment dangereux. Ceux qui sont dangereux, ce sont les hommes ordinaires, les fonctionnaires prêts à croire et à obéir sans discuter, comme Eichmann, comme Haus, le commandant de Treblinka, quand 20 ans après, les militaires français qui tuèrent en Algérie, et comme 30 ans après, les militaires américains qui tuèrent au Vietnam. Merci, au revoir.
Beaucoup de messages sur le répondeur de la Bassigie suite à cette série de reportages que nous vous proposons sur le Rwanda, Valentine Rwanda. Le livre dont parle cet auditeur, le livre de Michel Sidbon, effectivement s'intitule « Un génocide sur la conscience ». C'était en 98 à l'esprit frappeur. Et en quatrième de couverture, il y avait cette phrase attribuée à un certain François Mitterrand. « Dans ces pays-là, un génocide, c'est pas trop important ». Voilà, on voit que cette phrase a été, on l'a entendue à nouveau hier d'une autre façon, probablement. J'évoque évidemment l'incident diplomatique à Kigali lors de la cérémonie pour le 10e anniversaire du génocide au Rwanda. Ça vous a pas échappé, le président du Rwanda, Paul Kagame, a évoqué l'implication de la communauté internationale. Et vous savez que si la Belgique, les États-Unis, les Nations Unies, jusqu'au Vatican, Vatican ont reconnu leurs erreurs, leurs errances, avec plus ou moins de sincérité. Mais enfin, il y a quand même eu des gestes faits et des paroles adressées aux Rwandais. Sauf la France. La France ne dit rien, ne reconnaît rien et ne demande pas pardon au peuple rwandais. Et se poser ce genre de questions, vouloir savoir, c'est évidemment, c'est pas soutenir le pouvoir de Kigali, l'actuel pouvoir de Kigali, certainement pas, c'est tout simplement demander la vérité. Aujourd'hui donc, à la suite de ces reportages, on est toujours à Niaroubouye. C'est le lendemain du massacre aujourd'hui. Que s'est-il passé? Hier, c'était le jour du massacre, c'est-à-dire le 15 avril 1994. Aujourd'hui, c'est le lendemain, la suite, avec ceux que nous avons retrouvés avec Guy Vanctil. Mais auparavant, on va écouter un document demandé, après tout, par un auditeur, qui date du 7 avril 2000, les paroles du premier ministre belge, Guy Verhofstadt. Effectivement, on se sent un peu belge aujourd'hui.
Je viens d'écouter les informations sur France Inter. J'écoute les émissions sur le Rwanda depuis plusieurs jours. Et ce soir, ben, j'ai envie d'être belge. Je crois que ce soir, les gens qui ont du cœur sont belges. Pour reprendre une phrase célèbre, le monde entier est belge. Les Belges ont fait des excuses publiques par rapport au Rwanda. J'en attends la même chose de la France. Donc, est-ce que Monsieur Chirac peut faire la même chose que nos collègues belges, de s'excuser, d'avoir fourni des armes pour ce génocide?
J'assume ici devant vous la responsabilité de mon pays, des autorités politiques et la militaire belge. La Belgique et la communauté internationale doivent reconnaître les erreurs commises. Et je ne sais pas et je ne saurai jamais si ces événements terribles de 1994 pouvaient être évités. Mais je suis convaincu que nous aurions dû faire plus, que nous aurions dû faire mieux. Au nom de mon pays, je m'incline devant les victimes du génocide et au nom de mon pays... Et au nom de mon pays, au nom de mon peuple, je vous demande pardon pour cela.
Alors nous voilà à Niaroubouye encore une fois, devant cette église, qui est vraiment l'endroit le plus sinistre du monde. Moi c'est là que je suis arrivé la première fois, tu vois qu'on est arrivé avec le FPR ici, là où vous êtes garé. Et là on a vu des premiers cadavres, ici, sur les marches, là-bas. Voilà, il y a exactement 10 ans.
Je nta kintu bintu ntwara kuko narangije gupfa no gukira.
Je pense que ça ne me fait plus rien, je pense que je suis déjà morte et que
koko bamwanyi cyabahuhuye
gusa. Parce que même maintenant si il me tuait, ça ne serait pas très difficile parce que je suis déjà morte.
Est-ce que vous savez ce que vous allez faire, le travail qu'on va vous faire faire? Nous avons répondu que les responsables de nos villages nous ont déjà donné des instructions. Nous savons ce que nous allons faire. Nous savons de quel genre de travail. Les militaires nous ont dit, ils nous ont répété la même chose, ce qu'on nous avait dit, les responsables. Quand nous allons arriver là où on va, nous allons exterminer tous les Tutsis qui sont là. L'image, c'était le premier Tutsi que j'ai tué.
Je le connaissais.
Tu sais son nom?
Oui.
Guavir.
Il s'appelait Guavir.
Et tu l'as frappé?
Oui, sur sa tête.
Tous sont arrivés les Français, ils nous ont dit, est-ce qu'il y a des gens qui sont en train de tuer les gens? Nous sommes venus, nous leur avons montré les cadavres, les corps, nous leur avons montré ce qui s'était passé ici, alors ils ont fait demi-tour. Quand ils ont fait demi-tour, les Hutus nous ont massacrés ici. Alors ils sont revenus, l'armée française est revenue en force, après, pour constater, ce n'était que des cadavres. Des corps jonchés cette colline que tu vois ici.
Serrez la main de l'assassin. Serrez la main de l'assassin. Votre main hésite quand les détenus, les gars qui sont condamnés à 10 ans, 15 ans, 20 ans, 25 ans, vous tendent la main. Qu'est-ce que vous faites? Vous leur tendez la main? C'est difficile, très difficile. Vous pouvez pas vous empêcher d'imaginer cette main-là, quand elle tenait la machette et qu'elle était pleine de sang. Vous avez du mal à oublier ça, à mettre ça de côté. Même si l'homme vous regarde dans les yeux et qu'il attend quelque chose, votre main. On peut ne pas serrer la main de l'assassin. On peut se dire qu'on est en présence d'un monstre, d'un salaud, d'un barbare, d'un sauvage. C'est ce qu'on a envie de faire. On a peur, si on commençait à réfléchir aux raisons qui l'ont poussé, on a peur de le trouver des excuses. Et alors, l'assassin serait plus un barbare, serait plus un monstre, mais il serait un être humain. Comme vous et moi qui refusons de lui tendre la main. C'est une histoire difficile, celle de ces hommes-là. On a essayé d'aligner les raisons, la peur, la terreur, la menace, la pauvreté, la soumission à l'autorité, la peur de l'étranger, l'alcoolisme. On a trouvé mille raisons à leur action. Qu'est-ce qui les a poussés? Comment des êtres humains peuvent-ils faire une chose pareille? Avec le très beau livre de Jean Hatzfeld, La saison des machettes, il y en a un autre dont je vous ai parlé, qui s'intitule le 101e bataillon de réserve de la police allemande. Ça s'appelle « Des hommes ordinaires ». Et c'est l'histoire, ça se passe en Allemagne, ça se passe en 1942, ça commence en 1942, et ce sont des pères de famille, des braves types, des ouvriers, vendeurs, artisans, employés de bureau, qui faisaient partie de ce 101e bataillon de réserve, qui en l'espace de 16 mois, vont participer à l'exécution de juifs. Ils vont assassiner d'une balle dans la tête, en l'espace de 16 mois, 38 000 personnes, 38 000 juifs, et en faire déporter 45 000 dans les chambres à gaz de Treblinka. Au total, 83 000 personnes juives vont être tuées directement ou indirectement par ces hommes ordinaires. Et ce livre de l'historien américain Charles Browning montre une chose, nous rappelle une chose, c'est l'ordinaire aptitude humaine à une extraordinaire inhumanité. Aussi, nous n'avons qu'une issue, c'est résister, c'est désobéir. Autre chose, avant de retourner aujourd'hui encore à Niaroubouillet, une toute petite histoire. C'était en juin 2003, on était sur ces pistes, encore une fois, du sud-est du Rwanda, et on était à l'embranchement de deux pistes, et on était perdu. On s'est arrêté pour demander notre chemin, et en baissant la vitre de la voiture, on a entendu, venant d'une maison, une petite maison sous les bananiers, on a entendu des hurlements terribles de comme des hurlements de quelqu'un qu'on torture ou qu'on égorge. Alors on est descendu, on s'est approché de la maison avec des gamins qui nous suivaient, et on s'est approché du seuil, et sur le seuil il y avait une femme qui sortait de la maison avec une bassine pleine de quelque chose de rouge, et on s'est dit mais qu'est-ce qui se passe, arrêtez ça tout de suite. On s'est mis à hurler avec l'ami traducteur, mais dis-leur d'arrêter, il faut qu'ils arrêtent ça tout de suite. Et cette femme sur le seuil nous regardait, elle était tout à fait stupéfaite, interdite, mais arrêter quoi? C'était une femme dans la maison qui était en train d'accoucher. Et c'était les mêmes hurlements pour donner la vie ou pour donner la mort. C'est entre ces deux cris là que nous partons aujourd'hui pour le Rwanda.
Ahubwo barageze nyine tugenanze nari ndyamye abantu benshi noneho kubera amaso menshi yantemberagaho bo bakabona ko napfuye nanjye sinikome nkabuza umwuka noneho
le premier jour en fait ils ne m'ont pas découpé parce que j'étais tombée à plat ventre parmi beaucoup de gens. Il y avait beaucoup de gens blessés ou morts dont le sang coulait sur moi. Moi j'essayais de retenir la respiration et le tueur croyait que j'étais morte. Il continuait à découper les gens et à jeter les cadavres sur moi. Des gens criaient, surtout les enfants, et disaient « Pitié de nous, ayez pitié de nous ». Ils ont tué les gens jusqu'à peu près 18h30 parce qu'il y avait un clair de lune, et c'est à ce moment-là qu'ils sont partis. Mais moi je n'étais pas morte, j'étais coincée sous une pile de cadavres et je n'arrivais pas à me dégager.
Mais qu'est-ce que tu as fait toute cette nuit-là? À quoi tu pensais dans toute cette nuit-là parmi les cadavres?
Quand j'ai passé la nuit sous les cadavres, comme ça, toute seule, je ne pensais à rien, je voyais la mort autour de moi, je savais que j'allais mourir. Ce que je souhaitais en fait, c'était de trouver quelqu'un qui me tue vite.
Valentine Eribagiza, vous connaissez son histoire, bien sûr, maintenant, depuis 10 ans. C'est cette voix qui ne nous quittera plus jamais. C'est la voix de cette jeune fille, jeune femme maintenant, ne nous quittera plus jamais. On avait dit à l'époque, et on s'était persuadé qu'elle était la seule survivante du massacre de Niaroubouye. Eh bien non, on a, lors de ses récents reportages, voyages en juin, et là tout récemment avec Give en mars, on s'est aperçu qu'il y avait d'autres rescapés, une dizaine au total, sur cet énorme massacre. Je dis énorme, sans savoir exactement le nombre de victimes, on ne sait pas. Certains avancent chiffre de 600, ça va de 600 à 6000, ou même à 15 000 à 20 000, on n'en sait rien. Ce qui d'ailleurs devrait nous rendre très très prudents quant à l'estimation générale des victimes de ce génocide. Mais on a trouvé d'autres témoins, et on a essayé depuis 3 jours de raconter ce qui s'est passé, la préparation, on a raconté la résistance, on a raconté le début des massacres, comment les choses se sont déroulées, avec des témoignages des condamnés aujourd'hui, de ceux qui étaient parmi les groupes d'attaquants, c'est-à-dire de tueurs, les témoignages aussi du garde du corps, du bourgmestre Gachumbitsi, qui est Sylvestre Gachumbitsi, qui est actuellement en jugement à Arusha et qui est le chef d'orchestre des massacres de cette région et spécialement de cette paroisse de Niaroubouye. Et là, on arrive au moment où les massacres commencent. Et on a un témoignage qui est celui de Ferdinand Gwakegamba, qui est un oncle de Valentin Ribagusa, et qui vit toujours, lui, à Niaroubouillet, et qui était là ce jour-là, et qui se souvient de ce qu'a été cet encerclement. Parce que on a l'église, on a les bâtiments autour de l'église, et autour, à quelques centaines de mètres, il y a un grand cercle formé d'unités de gendarmerie, de police et de ceux qu'on appelle les INRA amoués, c'est-à-dire ces fameuses milices d'autodéfense qui ont été formées et on pourrait presque dire dressées à ces massacres et à cette extermination. Ils sont là, ils entourent le site et ils poussent devant eux ces paysans munis de machettes qui doivent faire le travail, qui sont poussés à faire le travail entre guillemets, c'est-à-dire exécuter à coups de machettes, de gourdins, de lances, d'arcs les gens qui sont là, hommes, femmes, enfants, dont Ferdinand.
Personne ne pouvait s'échapper de ce cercle. Moi, j'étais encore avec ma famille dans l'enceinte de la paroisse. J'ai eu la chance de rencontrer quelqu'un que je connaissais bien, mais il faisait partie de cette attaque. Je lui ai donné 20 000 francs rwandais. Alors, il m'a cédé le passage avec ma femme et mes enfants.
Il
nous a conseillé de ne pas continuer à marcher. Il nous a conseillé de nous cacher. Alors, je me suis caché tout près d'une latrine de l'école Serraï. L'école qui est tout près de la paroisse, celle que tu as vue là. Ils ont continué à tirer. Là où je me cachais, j'entendais des cris, des coups de feu.
Vers 22h,
les tirs ont diminué sensiblement.
Jusqu'au
petit matin, il y avait encore des coups de feu. Il y avait des hurlements, des cris. C'était effroyable.
Il
y avait quelques Tutsis rescapés de ce massacre, mais ils ont eu la vie sauve en se protégeant des corps des Tutsis. Mais ils ne faisaient pas plus de 10 mètres. À quelques mètres, ils étaient achevés par les Hutus qui étaient encore dans les parages. En fait, moi, je ne pouvais pas quitter les latrines parce que je voyais ces rescapés Tutsi qui se faisaient tuer à quelques mètres de moi par mes voisins Hutus. Alors, j'avais peur. Je me disais, il n'y a pas moyen de sortir. Où aller?
Un autre témoin, c'est Jacqueline. Jacqueline, elle habite à Rukira, c'est à 3-4 heures de marche de Niaroubouillé, et les habitants de Rukira, de Guitoué exactement, une petite bourgade de la commune de Rukira, étaient partis, ils nous ont déjà raconté leur histoire, étaient partis se réfugier ici à Niaroubouillé, dans cette paroisse de Niaroubouillé, parce que lors des massacres précédents, ceux de 59 surtout, mais aussi bien ceux de 63, ceux de 72, on pouvait trouver abri dans les églises, là les tueurs, les massacreurs n'entraient pas. Voilà pourquoi les habitants s'étaient mis en marche pour se réfugier dans cette église, et dont Jacqueline, qui avait 15 ans à l'époque et qui était avec sa famille, et qui nous a raconté comment elle s'est le début de ces attaques des tueurs, comment elle aidait les hommes à leur passer des briques, parce que les hommes essayaient de se défendre à coups de briques, et puis après les rentrer dans des locaux qui avaient été abandonnés par les religieuses et les religieux qui étaient partis la veille. Ils étaient partis le 13, ils avaient abandonné leurs ouailles aux machettes, et elle est là dans cette foule apeurée, effrayée, terrorisée, enfin c'est inimaginable. Jacqueline.
bakoresheje nyine imipanga n'impiri ubwo twe twaje guca ahantu mu idirishya bararishenye idirishya twari duherereyeho bamaze kurisenya rero ubwo tuza kuryurira turi batatu turagara hanze.
Moi je suis passé par une fenêtre de l'autre côté, la fenêtre qui donne à l'enclos.
Ubwo twaje nyine gutabarwa n'iryo dirishya turagara hanze.
Je suis passé par cette fenêtre, j'étais avec deux autres jeunes filles.
Twari batatu.
Nous étions à trois. Les Inerahamwe nous ont aidés à fuir.
Pourquoi ils vous ont aidés?
Ils
nous ont fait sortir parce que nous étions des jeunes filles. Ils voulaient nous posséder. Ils voulaient abuser de nous.
Ils vous ont emmenés avec eux?
Ils nous ont fait sortir parce que nous étions des jeunes filles. Dusigarana n'uwo umwe muri bo abandi basubireyo kwica.
Oui, ils nous ont aidés à sortir de cette chambre. Arrivés dehors, un d'entre eux est resté avec nous, les autres sont rentrés continuer le travail, continuer à tuer nos sœurs, frères, amis.
Le papa emmène le petit garçon pour pas que le petit garçon entende ce qui se raconte.
Les Inerahamwe nous ont fait passer par la fenêtre. Un d'entre eux est resté avec nous. Les autres sont rentrés, continuer à tuer nos frères et sœurs. Nous sommes rentrés avec eux ici au village. Arrivés ici, nous sommes allés vivre avec eux, bien évidemment, dans leur maison. Nestor nous a amenés chez lui, Mukanabana et moi. Nous avons eu la vie sauve parce que nous étions des jeunes filles. Il voulait abuser de nous et il l'a fait. C'est tout.
Pendant combien de temps ?
Je suis resté à Gitoku avec Nestor pendant deux semaines. Mukanabana, ma copine Mukanabana, elle n'a pas fait longtemps, elle est partie avec d'autres Inerahamwe qui sont venus la chercher. Un Inerahamwe appelé Mahunyunyu est venu la chercher. Il a violé, évidemment. Ce Mahunyunyu était malade. Il avait le sida. Mukanabana a évidemment attrapé le sida. Elle est morte. On l'a enterrée dimanche passé.
Combien de femmes ont été violées lors de ce génocide? C'est difficile d'avancer des chiffres, on sait que c'est énorme. Évidemment, aujourd'hui, parmi les survivantes, très peu ont le courage, on le comprend, de raconter ce crime. Mais Jacqueline, elle fait partie des femmes qui ont décidé de raconter, qui raconteront jusqu'au bout, quoi qu'il en coûte, ce qui s'est passé. Et voilà, c'était un jour, on était quelques jours après le décès de cette autre femme, son amie, Mukanabana, qui, 10 ans après, donc, est morte des suites du sida. Le viol faisait partie des récompenses C'est parti, le pillage faisait partie des récompenses. On tue son Tutsi, on tue ses Tutsis, et après on a le droit à prendre la toiture, la maison, les terres, les femmes, etc. Tout ça, c'était recommandé. C'était même recommandé par les instigateurs et les organisateurs de ce génocide. Preuve, le témoignage des détenus de la prison de Kibungo.
Parmi ces gens qui étaient à Nyarubuye, parmi ces Tutsis qui étaient à Nyarubuye, il y avait des belles filles Tutsis, des femmes. Certains miliciens Interahamwe les ont cachées parce qu'ils voulaient abuser d'elles. Alors ces femmes n'ont pas été tuées, ils les ont cachées.
Combien?
Nous sommes entrés avec
trois.
Trois filles.
Vous en aviez ramené trois.
La fille de Cherwagasore, la fille de Clément et Rutungura. Les trois filles sont rentrées avec nous. Elles étaient avec les miliciens Nélans.
Au total, ça faisait combien de femmes?
On me souvient de trois.
Mais au total, il y en avait combien en vérité?
Ils étaient cinq. C'était cinq filles et deux garçons.
Et le samedi, qu'est-ce que vous avez fait au
Kabara?
Comme
on nous avait dit, il fallait s'assurer que tous les Tutsis sont morts, sans aller chercher dans les environs. Si peut-être ils s'étaient cachés dans les champs, les latrines, nous les avons pourchassés.
Vous les avez achevés?
Voilà, je couvre la côte avec toi, on y couvre un groupe.
Oui, on les a tués, parce qu'il y avait un ordre qui était clair. Il fallait tuer tout Tutsi. Tous ces survivants des massacres de Nyarubuye, on les a achevés, on les avons tués.
Sauf Jacqueline, qui nous regarde aujourd'hui et qui raconte comment elle a survécu, dans quelles conditions elle a survécu, emmenée par un de ses Interahamwe, un certain Nestor.
Je suis resté chez Nestor, mais comme il était marié, d'autres Interahamwe sont venus dire à Nestor qu'il ne pouvait pas me garder. Un jeune homme qui s'appelle Nzeimana est venu me chercher parce que la femme de Nestor était furieuse et voulait me tuer. Je suis parti avec Nzeimana. Je suis resté avec lui. Les Ngotani sont arrivés. Je suis parti avec Zeyman en Tanzanie.
Ah, vous êtes embarqué en Tanzanie?
Tu dis en Tanzanie, là j'ai fait Tinda. Là je couvre le Rwanda.
Je suis tombé enceinte. Puis j'ai fui la Tanzanie. Je suis rentré au Rwanda, ici chez moi. Maintenant j'ai un enfant issu de cette relation. Je suis rentré en 1996. L'enfant a 8 ans maintenant.
Et le père, qu'est-ce qu'il est devenu?
Il est rentré au Rwanda. Arrivé ici, les membres de sa famille l'ont fait arrêter.
Il est où maintenant?
Aujourd'hui, Nzeimana Emmanuel est en prison en Sinda. Je ne sais pas pourquoi on l'a arrêté, parce que moi je n'ai rien dit, je ne l'ai jamais accusé. Mais on m'a dit que les gens de sa colline l'avaient accusé. Il est en prison pour génocide. S'il y a quelque chose qui me fait encore mal, c'est la mort de Mukandavana. Il n'y a même pas une semaine qu'on vient de l'enterrer. Morte parce qu'elle était malade, elle a attrapé le sida, violée par ses Interahamwe.
demande aux traducteurs, de ceux qui nous accompagnent, qui acceptent de nous accompagner et qui traduisent lors de nos voyages et nos reportages. Mais là, que ce soit Alice, notre amie, qui est devenue une amie, ou bien là, c'est Maurice, il faut leur rendre hommage parce que ce sont des rescapés eux-mêmes et c'est extraordinairement difficile et c'est beaucoup de courage, beaucoup d'engagement de leur part que de traduire. Et il a été fréquent au cours de ce reportage que notre ami Maurice, un grand balèze, un grand dadais adorable comme ça, ne puisse plus traduire parce que c'était trop dur ou tombe en larmes. Et là, on retrouve Ferdinand Nguakegamba, qui vit toujours, je vous le disais tout à l'heure, à Nyarubuye, non loin, mais à quelques 200 mètres de l'endroit de ce massacre. Pourquoi est-ce qu'ils partent pas? Souvent, on a cette pensée-là que leur demande, mais pourquoi vous partez pas? Mais c'est la terre. Les Rwandais, pour la plupart, sont des gens de la terre à 80 et quelques pourcents. Donc ils sont liés à leur terre. Et dans ces coins, si on peut faire une différence de classe, entre Hutu et Tutsi dans les villes, c'est vraiment les mêmes gens. La preuve, on nous le disait lors du début des massacres, il a fallu se départir, il a fallu dire qui est qui, parce qu'il y avait des Hutus qui s'étaient eux aussi cachés dans cette église, enfin réfugiés dans cette église. Récit de Ferdinand.
Je suis resté toute la nuit du 15, l'après-midi du 16. Au 17 avril 1994, c'est là où j'ai commencé à me cacher dans la brousse. Alors, les expéditions qui pourchassaient les rescapés ont commencé. C'était des patrouilles. Ils commençaient à détruire toutes les maisons systématiquement, une par une, des maisons des Tutsis.
C'était très méthodique. C'était pas du tout une explosion de violence. C'était systématique. Et on cherchait ceux qui auraient pu s'échapper de l'église.
Comme il y avait nos voisins Hutus, justement, c'était eux qui indiquaient les maisons des Tutsis. Et chaque fois, quand ils passaient devant une maison d'un Hutu, ils inscrivaient Hutu pour qu'on ne détruise pas la maison. Quand ils arrivaient sur la maison des Tutsis, on détruisait la maison immédiatement. Je changeais d'emplacement toutes les heures parce que j'étais poursuivi. Eh bien, quand ils arrivaient tout près de là où je me cachais avec ma famille, je m'enfuyais pour détourner l'attention. Comme ça, je ne verrais pas ma famille en train de se faire tuer. Ou peut-être j'essayais de les sauver. Quand ils ont cru qu'ils avaient réglé mon compte, parce qu'ils savaient qu'il n'y avait plus que moi qui était encore en vie, ils ont décidé de s'occuper des femmes. C'était le tour de tuer les femmes. Le conseiller Karamage a décidé que toutes les femmes Tutsi qui étaient évidemment cachées, qu'elles rentrent chez elles pour qu'on leur délivre un certificat de rester en vie, afin qu'elles puissent rentrer dans les champs de leur mari. Les femmes qui étaient cachées sont toutes sorties. Elles sont parties chercher ce certificat. C'était un certificat de ne pas être persécuté. Le conseiller Karamaye Isaé, il a délivré un certificat à ma femme qui s'appelait Ouamouizi Françoise, comme quoi elle avait le droit de rentrer sans être inquiétée.
ariko ubwo aho ngawe yagiye kukimuha amumaranye iminsi itatu amusambanye yamugize
mais avant de délivrer ce certificat il a passé 3 jours avec ma femme 3 jours chez lui en train de la violer Après, il va, chaque fois quand il fait des témoignages, il donne des témoignages, il tombe malade le soir. J'ai dit, même ses yeux commencent à gonfler.
Ça va ?
Il dit qu'on fasse vite comme ça, se termine.
On appelle derrière. On est cette toute petite maison en terre battue, avec une petite fenêtre, une porte, un toit en tôle, une table, 4 chaises, c'est tout.
Je venais de temps en temps. Pendant ces 3 jours, je suis venu au moins une fois par jour. Je venais chaque fois le soir. 3 jours après, ils ont tué. Donc le massacre, ça faisait une semaine et quelques jours que le massacre avait commencé. Les troupes du FP arrivaient à 30 km. Ils n'ont pas continué à avancer. Plutôt, ils ont fait demi-tour. Ils n'ont pas continué à avancer. Alors, c'était l'occasion de tuer à l'aise. Toutes ces femmes et filles. Les instructions étaient claires. Même les filles qui étaient, comme on disait à l'époque, Kuborosa, qui vivaient avec ces inherames dans la maison, évidemment qui abusaient d'elles, ils ont exigé qu'on ramène toutes ces filles qui étaient dans leur maison et qu'elles soient tuées par ceux-là même qui abusaient d'elles. Il y avait une fosse au bureau du secteur. Il les amenait vers là et il les tuait là-bas même. Ce que je te dis, je l'ai vu. Quand ils ont tué tout, ils ont tué ma femme et mes enfants. Je le voyais comme ça, je regardais. Je le voyais, je me suis caché derrière un arbre, un avocatier. Cet avocatier avait beaucoup de branches.
Vous étiez là, caché dans cet arbre, dans cet avocatier, dans les branches, et vous voyez la fosse, comme ça, devant vous, sous vos yeux.
Je te dis qu'ils étaient 36 membres de ma famille. 36 membres de ma famille. Ils les ont encerclés. J'étais là. J'étais dans l'avocatier. Bien, après avoir encerclé les 36 membres de ma famille, ils les ont tués un à un. Mais ils n'ont pas touché ma femme. Ma femme était très très belle. Un certain Byamana, quand ils ont mis de côté ma femme qui était très belle, ils l'ont déshabillée. Un certain Byamana l'a violée. Je regardais, c'était devant moi, devant mes yeux. Mon enfant, l'aîné, ils ont brûlé la hutte, puis ils l'ont jeté dedans. Il a brûlé vif. Ils ont continué à découper les autres à coups de machette et de marteau. Ils ont violé ma femme et puis ils ont commencé à se disputer entre eux. Ils disaient, c'est moi qui vais la prendre, l'autre c'est moi. Ils étaient à 4 autour de ma femme. L'un d'entre eux l'a frappé à coups de machette à la tête. C'est comme ça que les choses se sont passées. Moi, j'avais perdu la tête, j'avais complètement perdu la raison. Le soir, je suis descendu de cet arbre. Je marchais comme j'étais mort en fait. J'ai continué à marcher.
Comment veux-tu que j'oublie avec toutes ces cicatrices? Tu vois ce qu'ils m'ont fait. Comment veux-tu que j'oublie? Je ne peux pas. Je ne peux pas oublier ça.
Une dame, là, tout à l'heure, vous avez pu vous reconstruire une vie, vous avez pu vous rétablir?
Je viens de passer 2 ans avec elle, mais en fait, j'ai passé 5 ans. J'étais très malheureux, j'étais très mal en point. J'étais devenu presque fou. Seul dans la maison, je suis tout seul. Je n'avais même plus d'argent, j'étais tout seul, triste. Je me suis remarié, je vis avec elle depuis 2 ans, j'ai 2 enfants. À ce moment-là, j'avais une belle maison. C'était une maison cimentée. J'avais de la force. Je pouvais les nourrir. Je pouvais chercher de quoi vivre. Mais aujourd'hui, c'est pas évident. En fait, je suis fataliste. J'ai mis le destin du pays, mon destin, entre les mains de l'État. Je n'y peux rien. Je ne peux pas me venger. C'est comme ça. Je ne peux rien faire. C'est tout.
Peut-être qu'on peut trouver dans ces mots-là l'une des raisons pour lesquelles le Rwanda aimerait que les responsables français, les autorités françaises s'excusent. On continue, on va finir avec Jacqueline de Guitoué, dans sa maison de Guitoué à Rouquayrat, et ça nous préparera l'émission de demain, c'est-à-dire la justice. Quelle justice? Justice possible ou justice impossible? Justice en tous les cas très très difficile pour des gens qui portent
ce que portent des gens comme Ferdinand ou comme Jacqueline.
Et dans cette affaire, vous avez perdu toute votre famille.
Oui.
Je vais rappeler.
Oui, tous sans moi.
Famille et au Seigneur. Yach.
Toute ma famille, proche et élargie, et les restés à Nyarouye, sont tous morts.
Ah, le riche. Nous sommes arrivés à date, arrivés à ma mère.
C'est beaucoup de gens. C'est mon père, ma mère, mon oncle, mes tantes, les enfants de mes oncles. Je ne peux pas les compter.
Est-ce qu'il vous semble que ce qu'on fait est juste, les tribunaux, les gachacha, etc. Est-ce qu'il vous semble que c'est juste?
Tous ces gens qui étaient à Nyarubuye, ce que je voyais à Nyarubuye en train de tuer, je les vois maintenant revenir. Ils ne sont pas en prison. Tous ces grands Interahamwe qui ont tué beaucoup de gens, ils ont écopé de 15 ans seulement. C'est quand même scandaleux. Il y a des fois où tu l'accuses parce que tu l'as vu tuer. Tu l'as vu en train de frapper à la machette. Une semaine après, il est coupé de 5-6 ans. C'est quand même scandaleux. Il y a par exemple cet Interahamwe, ce Mahunyihunyi, que je connais bien, qui a tué des gens. Il y a une famille, par exemple, que je connais. À lui seul, il a tué toute la famille. C'était des rescapés du massacre de Nyarubuye. Ils sont rentrés au village. Pourtant, les Interahamwe avaient dit que les filles et les femmes ne seront pas tuées. Quand ils sont arrivés ici, toute la famille a été tuée par cet Interahamwe. Il est en prison, il s'appelle Gitera. C'est Gitera. Gitera est en prison à Nsinda ou à Kibungo, je n'en sais rien du tout. Tout ce que je sais, c'est qu'il est en prison. Quand ils ont prononcé le jugement, je n'étais pas là. Mais j'ai assisté au procès.
Vous pourriez lui parler?
Oui, je peux lui parler.
Le génocide, c'est un crime qui ne vieillit pas.
Merci à tous, merci à Jacqueline, Valentine, Violetta, Jocelyne, Ferdinand, Pierrot, Martin, Steve Agaba, Madeleine Mukamabano. Traduction Maurice Nyarou-Irira et Alice Mouzavende. Montage Yann Chouquet, reportage Guy Vanctil, technique aujourd'hui Ylvine Caron, Alison Ascrisi. Le répondeur, c'est Christophe Humbert qui s'en occupe. Et le numéro du répondeur, c'est le 01 56 40 37 37. Assistant Antoine Chao, et c'est Koy Nguyen qui a réalisé cette émission. Réclame.